Alors, on va continuer la suite aujourd'hui de 1 Corinthiens et on va lire le verset 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens 10, versets 1 à 15. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alors, on a vu la semaine dernière cette question de la liberté chrétienne, donc dans les chapitres précédents, tout en expliquant que le plus important, bien que nous soyons libres, c'est de vivre pour le Seigneur, de courir la course, de remporter le prix, la couronne que le Seigneur nous met devant nous. Ce qui signifie aussi peut-être renoncer à certaines de nos libertés parce qu'on ne veut pas pécher contre Dieu. Parce qu'à force de vouloir jouir toujours de sa liberté, eh bien on peut finir par tomber dans le péché aussi. Et c'est de cela dont nous parle ce texte ce matin. C'est une mise en garde contre le danger de se sentir tellement libre qu'on fait n'importe quoi. Alors, eh bien, il est dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul va s'appuyer sur les exemples des Israélites dans le passé, ceux qui nous ont précédés. Et quand on réfléchit à eux, qui étaient-ils sinon des enfants de Dieu ? C'était des enfants de Dieu. Alors, c'était un autre temps, c'était une autre dispensation. Les choses étaient aussi différentes, mais ils étaient quand même, de la même manière que nous, enfants de Dieu, choisis par le Seigneur. Et en cette qualité d'enfants de Dieu, ils ont été bénis par Dieu. Dieu les a envoyé une pluie de bénédictions sur Israël. Paul dit d'abord, versets 1 et 2, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et c'est première des grandes bénédictions qu'ils ont reçues ici en sortant d'Égypte, donc en quittant Pharaon, la nuée reposait sur eux. Elle était là au-dessus, elle leur montrait le chemin. C'était la présence de Dieu. Dieu lui-même était là et les guidait. Ils n'avaient plus qu'à suivre. C'était un nuage pendant le jour, c'était un feu pendant la nuit. Et même, elle les protégeait parfois, mettant une séparation entre les Égyptiens qui étaient derrière et le peuple qui était devant. Ils n'étaient plus seuls. Et puis Dieu leur a ouvert la mer Rouge, ils ont passé comme à pied sec, tranquillement. Voilà, enfin tranquillement, ils devaient être quand même pressés, mais ils étaient en paix parce que Dieu était en train de les protéger. Je lisais Hébreux 11, 29, et ce verset me sautait aux yeux. Hébreux 11, 29 dit « C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec ». Tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et on voit une vraie différence là entre les enfants de Dieu d'une part et puis ceux qui ne sont pas enfants de Dieu d'autre part. Dieu bénit ses enfants, Dieu fait grâce, et il y a une distinction avec les enfants de Dieu, ce n'est pas pareil. Ces derniers jours, autour de moi, j'ai vu beaucoup de pneus crevés. Donc des personnes que je connais qui me disaient « Oh, ben, j'ai crevé » ou « en train de changer sa roue » et tout ça. Je me suis dit « Mince, je ne me rappelle pas avoir crevé, moi, une fois, hein, dans toute ma vie, avoir dû changer mon pneu. » Je me suis dit « Oh là, ça va peut-être m'arriver, ça. » Ben oui, hein, pourquoi pas, ça arrive à tout le monde de crever. Et deux jours plus tard, je vois une pointe dans mon pneu. Et je bouge, je dis, mince, ça a l'air costaud, ça. Alors, je dis, voilà, ça y est. Je vais chercher une pince et je retire un clou de 3 cm. Mais il ne s'était pas planté à la verticale, il s'était planté là où il y a quand même encore assez de gomme et de travers. Ce qui fait que j'ai retiré le clou et il n'y avait rien. Je me dis, oh, merci Seigneur, merci. Merci de m'avoir épargné de ce petit détail, hein, mais un tracas qui embête bien quand on doit emmener les enfants à l'école ou ce genre de choses. Et s'il ne nous arrive pas quelque chose, c'est parce que Dieu nous protège aussi. Hein. C'est Dieu qui garde. Hein. Et c'était comme un clin d'œil. Oui, peut-être t'as pas crevé, mais parce que j'étais là. Hein. Tu peux aussi crever. Et Dieu, eh bien, si c'est lui qui permet, qui protège et qui garde, c'est aussi celui qui permet parfois qu'il arrive quelque chose. Et c'est ça qui est rassurant pour nous. C'est qu'on peut se dire, mais quand tout va bien, c'est Dieu. Et puis si ça va pas bien, c'est Dieu aussi. Il a permis aussi, et il a quelque chose aussi à m'apprendre pour mon bien. Et donc, les Israélites furent bénis, ils furent protégés, ils ont traversé là comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens derrière ont été engloutis. Et maintenant, ils étaient libres, libres de l'Égypte, sains et saufs. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous parle aussi, parce que la sortie d'Égypte, c'est une image de notre sortie du monde, en fait. Hein. C'est l'image de notre conversion. On est venu à Jésus-Christ, voilà, on sort, on quitte le monde pour entrer dans la vie avec Dieu. C'est le Seigneur qui nous a envoyé la nuée, qui nous a envoyé son esprit, qui nous a éclairé, qui nous a conduit et qui nous délivre par Jésus-Christ. Paul illustre aussi ce passage de la nuée et de la mer comme un baptême. Donc, bien sûr, on peut y prendre l'image de notre propre baptême. Si la conversion à Dieu, elle ne demande que la foi, la repentance, et hop, on saisit ce salut en Jésus-Christ. Le baptême, c'est un tournant visible de quelque chose d'invisible, en fait, de ce qui s'est passé dans notre cœur. Nous sommes, voilà, morts avec Christ, ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Et donc, voilà, normalement, le baptême qui suit la conversion, c'est le nouveau départ. Quel bonheur, on peut recommencer à zéro. C'est ça. Hein? Je tourne la page, je recommence ma vie avec Dieu, en Dieu. C'est possible par Jésus-Christ. Paul dit ensuite, au sujet des Israélites, versets 3 à 5, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et lorsque, dans le désert, ils eurent faim, Dieu a fait tomber la manne du ciel, et puis ils pouvaient ramasser ces petites graines, les faire cuire, en faire une pâte, un gâteau qui avait le goût du miel. Mais bien sûr, c'était une image de Jésus, Jésus qui est le pain du ciel, qui a vraiment été donné pour nous, puisqu'il a donné sa vie pour nous, il s'est offert pour nous. Et quand ils eurent soif, Dieu a permis qu'une source sorte du rocher et les abreuve. De nouveau, une image de Christ. Le roc dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui était la vraie source, qui les abreuvait, qui leur donnait toute l'eau qui était nécessaire au long du chemin. Christ les suivait et pourvoyait à tous leurs besoins. Et ces exemples montrent une chose, c'est que Dieu prend soin de ses enfants et qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour vivre, tout ce qui est nécessaire pour vivre, et pour vivre dans le contentement et dans la joie de lui appartenir, d'être à lui, d'être sauvé. Il est dit, nous avons tout pleinement en lui. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, pour vivre. On a tout pleinement. Il est dit aussi, en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est des hommes et des femmes bénis. On sait ce que c'est qu'avoir faim. On sait aussi ce que c'est qu'être rassasié physiquement, hein, dans notre estomac. Être rassasié, c'est quand on mange à satiété, voilà, on a bien mangé, on est contenté, on n'a même pas envie d'en rajouter. Ça y est, on a bien mangé. Eh bien, Christ rassasie l'âme humaine. Il nous rassasie. Quand on vient à lui, on goûte vraiment à ce rassasiement, on est, ça y est, j'ai trouvé. J'ai plus besoin d'aller courir à droite, à gauche, j'ai trouvé. C'est Jésus-Christ qui contente mon âme. Ça, c'est l'expérience du chrétien né de nouveau. Et normalement, quand on vient à Christ, ben, on goûte dès le départ ce rassasiement, mais normalement, on doit continuer à se rassasier de lui. Hein? Continuer à se nourrir de lui et, voilà, et manger toujours à sa faim avec lui et être abreuvé toujours et n'avoir pas besoin d'aller voir ailleurs, de chercher ailleurs. Mais il y a un mais. Versets 5 à 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et les expériences du passé, des Israélites du passé, nous ont été données comme un enseignement pour nous, chrétiens, d'il y a 2000 ans et chrétiens d'aujourd'hui du 21e siècle. Ils étaient bénis par Dieu à chaque instant. Dieu prenait soin d'eux, mais malgré cela, ils ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils eurent de mauvais désirs. Et même en étant bénis par le Seigneur, en ayant toute sa grâce, on peut quand même encore glisser vers des mauvais désirs ou de nouveau vers de mauvais désirs. Et c'est une mise en garde pour nous. Et Paul va nous parler maintenant de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? Finalement, l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre à la place qui revient à notre Créateur, à Dieu, c'est-à-dire dans notre cœur. Et Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, à la fois corps, âme et esprit, pour que lui puisse avoir la première place dans notre cœur. Et il est digne de recevoir cette première place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne comme Dieu. Il n'y a personne qui nous aime comme lui. Il n'y a personne qui puisse nous contenter comme lui. Il n'y a personne d'aussi merveilleux que lui. Il n'y a personne d'adorable comme lui. Personne. Et donc, il a légitimement la première place dans notre cœur. Mais Dieu ne s'impose à personne. Il dit simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et l'idolâtrie, eh bien, c'est enlever Dieu de cette première place et puis mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu à notre place, à cette première place dans le cœur. Verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et Paul rappelle ici ce qui s'est passé dans le désert quand ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Moïse est monté alors vers Dieu qui allait lui donner les lois et notamment eh bien, graver les tables de la loi du doigt de Dieu, les 10 commandements. Et pendant ce temps-là, en bas, il est dit que le peuple commença à s'impatienter. Alors, ils se sont tournés vers Aaron et ils lui ont dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc, Dieu venait de les faire traverser la mer Rouge. Et là, maintenant, au pied du mont Sinaï, ça y est, ils étaient en train de l'oublier complètement. Dieu n'est plus là. Et ils étaient prêts à suivre un autre Dieu. Alors, on se dit, mais c'est incroyable. Comment ils ont pu oublier ça ? Mais finalement, est-ce que nous, on n'est pas exactement comme eux ? Et oui, on est exactement comme eux. C'est terrible. Parce que le Seigneur peut faire des choses dans nos vies, il peut faire des miracles dans nos vies, et puis quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, eh bien, on le pousse de côté et on met autre chose dans notre cœur. Et c'est cette autre chose, ou cette autre personne, ou cette autre action, qui d'un seul coup prend une... Voilà, c'est notre plus grand amour, ça remplit notre vie, ça nous envahit. On ne pense qu'à ça. On se fait un autre Dieu. Alors bien sûr, c'est pas une statue, hein. On a passé ça. On ne se prosternera pas devant une statue. Mais on va mettre quelque chose d'autre. On va déloger le Seigneur du trône et on va mettre autre chose sur le trône. Par exemple, un objet, hein, quelque chose qu'on veut posséder et on est prêt à ne pas écouter la voix de Dieu et de le posséder, de l'avoir, de l'acheter, de se le procurer. Ne plus écouter la voix de Dieu, faire ce qu'on veut. Ou bien c'est une personne qui soudain prend plus d'importance que le Seigneur et on va écouter plutôt cette personne que le Seigneur lui-même. Ou bien parfois c'est nous-mêmes qu'on place sur le trône. L'idolâtrie, c'est parfois l'idolâtrie de soi-même, de l'ego finalement, où on voit tout dans le prisme de sa propre personne. Et voilà, j'ai raison. Et on n'écoute plus la voix du Seigneur. Ou bien c'est le plaisir qui peut aussi nous dominer. Il est écrit, on l'a lu, que le peuple s'assit pour manger, pour boire, hein, puis ils se levèrent pour se divertir. En fait, le mot veut dire rire, s'amuser, se moquer. C'est les trois à la fois. Voilà, ils voulaient du plaisir, du bon temps, rigoler. Après quelques jours d'absence où Moïse était monté, ça y est, maintenant, bon allez, hop, on zappe et on s'amuse. On veut s'amuser. Ça fait penser à ce passage dans Timothée où il est dit que dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça y est, le plaisir est devenu un Dieu. Et dans notre société, vraiment, le plaisir est devenu un Dieu. Hein. Il faut vraiment en profiter. Il faut en profiter dans tous les sens. Hein. Il faut de l'amusement, de la distraction, du plaisir au maximum. Et Dieu, eh ben Dieu, on le cherche. Dieu, il n'est plus là. Verset 8. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et là, Paul rappelle l'épisode où les Israélites ont commencé à aller voir les femmes moabites. Et les femmes moabites vont avoir des relations comme ça avec elles. Et puis, les femmes les attirèrent à porter le peuple à faire des sacrifices à leur Dieu. Et le peuple même mangea, se prosterna devant leur Dieu. Et il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et ils commencèrent à tomber par milliers. Dieu en tua des milliers. Et c'est au même moment qu'un homme de la tribu de Siméon voit une femme madianite, il la prend et devant tous, devant Moïse, devant le peuple, il l'emmène dans sa tente. Et là, il y a un homme, Phiné, qui est écœuré de ça, qui prend une lance, qui court, qui rentre dans la tente et qui va tuer donc cet homme et cette madianite. Et là, la colère de Dieu va s'apaiser. Parce qu'il y a un homme qui a dit « Non, stop, on arrête là, on arrête le péché. » Et ça s'est arrêté. Dieu a apaisé, s'est apaisé. Et si l'apôtre Paul nous rappelle cet exemple à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, c'est qu'il y a un danger pour nous aussi d'être souillés, corrompus, pervertis par cette société qui descend. La débauche, elle a existé là avec les Israélites. Elle existait au temps de Corinthe, bien sûr, et Paul le dit. Et elle existe aujourd'hui. Plus que jamais, elle est là. Notre société trouve ça normal. Il n'y a aucun problème. On couche ensemble de plus en plus tôt, comme ça. Et même l'État nous encourage. Il encourage les mineurs. Il offre tout. Préservatifs, s'il faut. Vous allez voir les plannings sociaux. Pas de problème. Un enfant, tu es jeune. Pilule du lendemain. Parfois derrière le dos des parents. C'est terrible. Et quand on a un président qui fait 4 enfants, à une femme comme ça, et puis après qu'il en prend une autre, et puis finalement par derrière en cachette il en prend une troisième, et que 3 Français sur 4 disent bah, « c'est normal, c'est la vie privée hein. ». On se dit « mais alors là, ça ne va plus là hein. ». La débauche. Et nous, le danger, c'est qu'on finisse par se dire ben, « c'est normal et on l'accepte ». Dieu ne veut pas que ça soit la norme si on aime Jésus-Christ. Ce n'est pas la norme, non. Dieu rejette ça, il ne veut pas ça. Et il veut que l'on sache qu'il juge ce comportement. Verset 9. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Troisième exemple, donc c'est les Israélites qui murmurent dans le désert. Il est dit que le peuple s'impatienta dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu venait les prendre, il les conduisait, mais le chemin était trop long. Et le soleil frappait trop fort. Et c'était trop dur. Alors, eh bien, ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi toi et Moïse, enfin Moïse et Dieu, nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que cette attitude, elle ne fait pas aussi parfois écho à notre propre cœur ? Où nous, eh bien, dans une situation d'épreuve hein, qui dure aussi, on peut se mettre à murmurer. Je sais parce que par expérience, né de nouveau, j'ai murmuré aussi. On murmure parfois, on tombe. Hein. Et il n'y a qu'un pas pour marcher dans la chair et commencer à se plaindre. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne fait rien. Dieu permet que je souffre. Et ces sentiments, eh bien, ils conduisent tout naturellement à dire « mais en fait, Dieu n'est pas bon. En fait. Il n'est pas bon, il ne m'aime pas, il ne prend pas soin de moi. » Il n'est pas ce qu'il prétend être. Alors la vérité, ce n'est pas ça, bien sûr. Il faut savoir que juste avant, Christ venait de briser le rocher et de leur donner l'eau vive. Comment ils peuvent dire, mais on n'a pas d'eau. Ils ont eu besoin d'eau, mais Dieu leur a donné de l'eau. Dieu leur donnait ce qui était nécessaire. Et Dieu prend soin de nous. Et parfois, eh bien, on l'oublie parce qu'on est trop focalisé sur ce qui ne va pas. Et puis, on ne voit plus les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Ne cesse pas de compter les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi ça. Ça évitera de murmurer quand tu te retrouveras face à quelque chose qui est difficile, quand la route semble longue. Et là, cette impatience et ces murmures étaient de trop. Alors le Seigneur a envoyé des serpents qui ont commencé à les mordre. Ils ont commencé à tomber. Et puis, Moïse a levé cette perche avec ce serpent d'airain, image de Christ. Et soit, regardez vers Christ, image de Christ, le serpent d'airain, et Dieu nous guérissait. Soit, on ne regardait pas et on continuait à murmurer. Et nous, il n'y a que 2 solutions. Hein. Soit, on continue à murmurer et on ne guérit pas. Soit, on lève les yeux vers Christ. Et on guérit. Il nous libère. Il nous délivre des murmures. Je lisais cette semaine, vous pouvez le prendre si vous voulez, c'est Hébreux 12, 3 à 4. Hébreux 12, 3 à 4. Il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et c'est vrai que certaines épreuves, parfois, eh bien, nous paraissent interminables. Et c'est une souffrance continuelle, souffrance dans l'âme, un poids dans l'âme. Mais si on lève les yeux vers Jésus, on voit un exemple qui nous aide à persévérer. « Considérez, dit-il, considérez, regardez, observez, prenez le temps de regarder Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, il est dit, a résisté. Il a résisté contre le péché. Il a résisté contre la tentation. Résisté en tant qu'homme contre l'idolâtrie. L'idolâtrie de sa volonté propre, puisqu'il a renoncé à sa volonté propre pour faire la volonté de son Père. Il a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il a résisté aussi contre cette indépendance qui lui disait « Ne te laisse pas prendre par les Romains, évite ça, ne va pas jusqu'à la croix, évite ça. » Levez les yeux, suivez son exemple, résistez. Résistez contre le péché en vous, le péché autour de vous. Versets 11 à 13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et Dieu nous laisse donc des exemples dans la Bible et des contre-exemples. Il y a les deux. On sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait aussi ce qui conduit à la bénédiction, à la faveur de Dieu, et on sait ce qui conduit au châtiment et au jugement. Il est dit, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Alors Dieu veut qu'on soit vigilant. Et Dieu veut aussi qu'on sache que ce n'est pas surhumain ou inhumain ce qui est devant nous, ce que nous vivons. Dans le mot tentation, c'est peirasmos. Tentation, c'est aussi épreuve ou expérience. C'est la même chose. Donc, tentation, épreuve, c'est pareil. Et ce que nous vivons, que ce soit l'épreuve ou que ce soit la tentation, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à surmonter. Dieu dit, ce n'est pas impossible, c'est possible. Ce n'est pas au-delà de vos forces. Et il veut qu'on le sache. Ce qui signifie que si on tombe, ce n'est pas parce que l'épreuve est trop dure, mais c'est parce qu'on n'a pas résisté avec la force qu'il voulait nous donner. On n'a pas saisi cette force qu'il voulait nous donner. Alors, eh bien, il faut saisir cette grâce afin que ce qui est boiteux ne chancelle pas, mais se raffermisse plutôt et que vous puissiez marcher avec le Seigneur. La suite dit, « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et je ne sais pas vous, mais quand on lit ce verset, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé, quand on fait une lecture rapide, superficielle, même quand on connaît le verset par cœur, ce qui focalise notre attention, c'est ce mot « sortir ». Et on se dit « sortir », c'est ça l'important. Je veux sortir, je veux que ça cesse, je veux en terminer, que ce soit avec l'épreuve, que ce soit avec la souffrance, que ce soit avec la tentation. Je veux plus ça, je veux que ça s'éloigne de moi. Mais la délivrance, elle n'est peut-être pas là où on pense. Et j'aimerais attirer votre attention sur la fin du verset. Parce qu'à la fin, il y a une fin qui explique aussi ce que signifie « en sortir ». Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et si Dieu permet quelque chose dans notre vie, c'est surtout afin que nous apprenions à le supporter. Et le moyen d'en sortir, c'est peut-être pas la fin ou la disparition de l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas un jour disparaître ou se finir. Mais le moyen d'en sortir, ce n'est peut-être pas aujourd'hui la fin ou la disparition de l'épreuve ou de la tentation. Mais le moyen d'en sortir, c'est la capacité de le supporter. Et c'est peut-être ce qu'il faut qu'on apprenne. La leçon à apprendre pour nous, c'est peut-être de savoir supporter ce qui est difficile. Et peut-être c'est là la réelle sortie. On ne peut pas dire, mais non, moi ce n'est pas ce que je veux. Moi je veux en sortir. Moi je veux que ce soit terminé, hein, qu'on tourne la page. On ne peut pas dire ça. Parce que le plus important, le plus bénéfique pour nous, le plus enrichissant pour notre vie, peut-être le plus formateur, le plus sanctifiant, c'est peut-être pas de sortir complètement de... En tout cas, c'est pas, peut-être pas la fin de l'épreuve. Mais c'est d'apprendre à vivre avec Jésus dans l'épreuve. Et notre Seigneur, lui, il n'a pas été épargné l'épreuve. Il l'a vécu. Il est passé au travers. Il est mort à lui-même pour ensuite mourir pour nous. Et de la même manière, l'épreuve, elle nous conduit à la mort à nous-mêmes. Et la mort en nous-mêmes nous conduit à sortir de l'épreuve, à être délivré. Celui qui est mort, il goûte aussi à la vie. Christ est mort et il est ressuscité. Et nous, si nous mourons, eh bien, nous allons ressusciter et vivre en nouveauté de vie et être libérés. Et souvent, c'est là qu'est la porte de sortie. Alors, bien sûr, la chair n'aime pas ça. La chair veut vivre. Elle veut vivre, elle veut en profiter, elle veut continuer à pécher. Et donc, elle veut pas de ça. Elle veut pas mourir, la chair, elle veut vivre. Mais Dieu nous dit, il faut qu'elle soit crucifiée pour en sortir, et pour avoir la paix, pour être heureux, pour porter du fruit. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuir, d'une part, résister, d'autre part, résister au péché, résister à la tentation, résister au découragement, supporter l'épreuve, car Jésus dit « Je suis avec vous ». Et quand on a lu tout ce début du chapitre qui est plein de mise en garde, ensuite, ça se termine avec ce verset 13 qui est un encouragement que le Seigneur veut nous donner. Un encouragement où, voilà, c'est pas au-delà de tes forces. Je suis avec toi, je suis en train de peser la chose, hein. Je suis en train de t'aider et je vais t'aider. Il est avec nous. Qu'on soit en lutte contre des tentations, des péchés qui nous tiraillent, qu'on soit en lutte contre nous-mêmes, contre le découragement, contre le pessimisme, qu'on soit en lutte avec la souffrance, avec l'épreuve physique, Dieu veut qu'on sache qu'il est avec nous, qu'on n'est pas seul. Et j'aimerais terminer juste avec une parole d'Ésaïe, Ésaïe 41:10. Parce qu'il nous le dit à tous, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.